Bonjour mesdames, messieurs, nous allons donc poursuivre. Lors du dernier cours, nous avions commencé à étudier une structure qui s'était révélée à nous à la fin du Yasna 34, ou plus exactement dont les éléments embrassaient toute la partie dite sacrificielle qui s'étend du Yasna 33.5 au Yasna, à la fin du Yasna 34, à savoir la strophe 15 exactement. Et un motif composé de quatre éléments dont nous avions en charge de faire l'analyse. Le motif général, c'est un chemin sur lequel on voyage, avec un certain nombre de verbes qui expriment ce déplacement dans l'espace. Le but de la pérégrination, je vous le rappelle, c'est le prix de victoire. C'est un mot indo-iranien. Je répète rapidement sur quoi nous étions arrivés, le mot « mijda ». Le prix de victoire, victoire à la course, hein, du voyage, Mijda, indien, Mila, de même sens. Donc nous sommes ici dans nous sommes en territoire connu. Et pour gagner ce prix de victoire, on le gagne, le verbe est han, indien san, il faut en avoir le pouvoir, le kshatra. Les deux motifs sont liés. Et nous avions pu établir que deux ensembles gathiques, plus exactement, sur les quatre ou cinq que nous possédons, n'est-ce pas, montrent un glissement de leur strophe initiale du terme vairia, ce qu'il faut choisir. Le kshatra qu'il faut choisir figure dans la strophe initiale, yasna 27-13 pour la première gatha, yasna 51-1. Et ce même adjectif varia vient caractériser le mijda dans la strophe finale, ou presque finale. C'est le cas au Yasna 34-14, pour la Huna Vairia, et c'est le cas dans la formule conclusive 54-1, pour l'ensemble 51-53. Alors, le terme essentiel, celui qui nous a retenu, qui va nous retenir encore, pour tenter de définir ce dont il s'agit, c'est le mot d'Aïna. Je vous ai rappelé qu'il s'agissait d'une des âmes humaines, avec cette anecdote que nous raconte le Hadoknas, et que je vous ai rappelé. Et je propose que nous établissions désormais notre analyse sur l'interprétation de ce mot d'Aïna par la racine « di », « voir », et que nous y reconnaissons, quoique déformé par l'histoire de la transmission orale, un plus ancien Dayana, puisque le mot est trisyllabique, comme nous le montre le maître gathique Dayana. C'est un nom en ana, donc en principe accentué sur la dernière syllabe, ce qui explique peut-être la contraction des deux premières syllabes. Donc, c'est une capacité de voyance, capacité de voir ou de se mouvoir, par conséquent, sur le chemin. Cette capacité de vision présente des analogies avec l'aurore. L'aurore, ou char en avestique, ou chasse en védique. Char. Védique ou chasse. Les trois points de convergence, c'est que l'aurore et la Dayana montrent des chemins. Ce sont des ouvreuses de chemins. Elles balisent les chemins, comme dit un parallèle védico-avestique, avec l'avestique récent. La lumière aurorale trouve son expression, sa définition, dans la racine chit, chit, et maître de la lumière, devenir clair. La lumière aurorale étant définie par le mot ketu et par chitra en avestique, ketu en védique. Je vous ferai remarquer, je vous le dis ici, car, mea culpa, que le Yasna 34-14, vous l'avez certainement sur les feuilles, je ne l'ai pas cité jusque-là pour ne pas alourdir le document, d'autant que le passage n'est pas parfaitement compréhensible, mais le dernier vers du Yasna 34-14, du Yasna 34-14 mentionne le mot Houchisti. Houchisti, qui vient s'intégrer au thème du chemin, c'est-à-dire le bon éclairage, en quelque sorte, le bon éclairage auroral. Alors, troisième caractéristique de l'aurore et de la daïna, un certain érotisme, pas très né jusqu'ici dans les textes avestiques. On peut supposer simplement que les deux âmes, la daïna et l'urvan, entretiennent un lien de nature matrimoniale. Ça paraît donc considérablement estompé. Et je vous ai fait remarquer que, sur la base d'un passage du Yasna 31-20, que ce lien matrimonial entre les deux âmes, l'âme féminine Daïna et l'âme masculine Urvan, pointait, n'est-ce pas, dans ce texte à cause de la racine Naïchat, à cause du verbe Naïchat, la racine Ni, conduire. Puisque le mariage s'exprime, de manière possible en tout cas, dans les textes indo-iraniens anciens, par l'acte de conduire, c'est-à-dire conduire l'épousé de la maison de sa famille à la maison de son mari. Pas, ni conduire veut dire épouser. Mais ici, avec renversement mythologique intéressant, puisque c'est la femme qui conduit, c'est la daïna qui conduit l'urvan. Bon, on ne peut pas vous en dire plus, C'est un renversement mythologique évident du thème commun, n'est-ce pas, dans ce... Alors, le troisième mot, c'est ici que nous avions commencé à en dessiner les caractéristiques, c'est le fameux mot saouchiant. Le mot saouchiant. En récent... c'est la, bon, les fonctions sacerdotales, pas, vous savez, la fonction sociale, la fonction sacrificielle, la fonction finale ou bien sacrée, c'est le prêtre dans sa fonction sacrée en tant qu'il s'inscrit dans la continuité sacrificielle qui un jour débouchera sur la fin des temps et la résurrection des morts, la résurrection des corps eux-mêmes, n'est-ce pas ? Or, ce mot grammaticalement est limpide. C'est le participe d'un thème de futur, saouchia, d'un verbe sou qui signifie gonfler. C'est un mot indo-iranien aussi, quoique nous n'ayons pas ce futur en védique. Donc le saouchiant, c'est celui qui va gonfler. On peut suspecter que les autres dérivés, le gonflement, c'est un non-racine, sou, nous observerons d'ailleurs. C'est un dérivé hétéroclitique Sava, représente l'indien Chavas. Il y a un adjectif, Soura, Choura, avec accentuation, une accentuation anormale, mais qui est en réalité qui est de pour donner de l'importance au mot. Et on peut supposer qu'il y a une catacrèse, hein. Ça veut dire simplement puissant. C'est un mot qui veut dire fort, puissant, costaud. Hein. C'est utilisé en général pour Indra dans les textes védiques, etc. Mais il faut se méfier des catacrèses, n'est-ce pas ? Parce qu'ici, nous allons voir autre chose que nous allons pouvoir définir. Alors, comment la notion, les notions que traduisent les substantifs, savar ou sou, se rapporte aussi au même principe, n'est-ce pas ? Le chemin, c'est celui sur lequel s'opère un certain gonflement. Hein, nous le trouvons dans l'Yasna 48.3, qui signifie, qui nous donne savanko pato, les chemins du gonflement, hein, pour ne pas faire la catacrèse. Je préfère laisser le sens fondamental du mot jouer pour l'instant. Et à ce mot « savar » est lié un autre type de puissance que nous ne pouvons pas traduire avec beaucoup de précision. Malheureusement, c'est un mot qui va disparaître de l'usage en avestique récent. Il n'a pas beaucoup d'attestation en avestique ancien, mais il est toujours associé à cette force « savar ». C'est un mot qui est « ish ». « Ish », exactement, avec un « ni » long, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. La quantité de « i » et de « ou » en avestique dépend de données graphiques purement. Et qui représente un mot indo-iranien « ish ». C'est un type de puissance, mais qui est aussi associé à la progression sur le chemin, par exemple, Yasna 54, « isho paiti », sur le chemin de l'ish. Sur le chemin de l'ish. Voici, je vous propose maintenant, nous avons donc ainsi tenté d'éclaircir les données que nous fournissent les deux strophes successives, 34-13 et 34-14, mais le motif réapparaît, comme d'ordinaire, une fois dans chaque gatha, et nous pouvons, dans la deuxième gatha, Yasna 46-3, nous retrouvons ceci. Alors, quelles sont les différences? Eh bien, dans cette gatha, nous ne trouvons pas le nom du chemin. Il n'y a pas de chemin. Mais il y a bel et bien un déplacement dans l'espace dont nous allons nous occuper, car il prend une forme intéressante. Alors, il y a une absence certaine. C'est le mot Mijda. Mijda, dans la gatha Ushtavaiti, la deuxième gatha, le mot Mijda est attesté deux fois, précède le Yasna 46-3, Yasna 44-18 et 19, deux strophes consécutives. Il ne s'agit pas du prix de victoire, c'est l'autre sens, c'est le salaire sacerdotal, ce qui est un sens possible aussi pour le mot indien, prix de victoire ou le salaire sacerdotal. C'est ce que l'organisateur du sacrifice paye au prêtre pour avoir officié. Et c'est un rappel un peu menaçant, d'ailleurs. Le chantre des gathas dans l'Yasna 44 rappelle qu'il faut le payer, qu'il doit recevoir son mijda. Donc, le mijda est absent de la gatha Ushtavaiti, sauf avec ce sens-là, l'autre versant. Alors, le mot d'Aïna n'est pas directement attesté, mais je l'ai noté, n'est-ce pas? C'est que la dernière strophe du Yasna 45 mentionne le mot d'Aïna. Le mot d'Aïna apparaît dans le Yasna 45-11. Ensuite, le Yasna 46-6-7 est une zone, ce que j'appelle une zone d'Aïna, c'est-à-dire un ensemble de strophes où le mot d'Aïna est répété plusieurs fois. Le mot devient extrêmement prégnant, extrêmement présent, il est répété. Nous ne savons pas à quoi ça correspond exactement, mais nous ne sommes pas très loin du Yasna 46-3. Dans la gatha Ushtavaiti, il y a en réalité deux zones d'Aïna, Yasna 44-9 et 11, puis le Yasna 46-6 et 7, alors que la gatha Ahunavaiti, la première, n'a pas de zone d'Aïna. Le mot d'Aïna n'apparaît jamais que dans des strophes séparées. Alors, c'est un texte intéressant, vous avez la traduction, je la lis avec vous, c'est une question posée à Mazda où on demande quand l'efficacité mentale, c'est-à-dire le mot kratu, desaushyat, métaphoriquement comparé aux taureaux des jours, les taureaux des jours, se propageront-elles, je vais y venir, en vertu de définitions anciennes, pour apporter le soutien de l'agencement à l'état d'existence. C'est donc une question qui porte sur un fait futur. Et alors, belle petite occasion de me corriger. C'est ici que je me suis rendu compte que je faisais comme tout le monde, vous savez, mais je crois qu'il faut corriger tout le monde et soi-même, dans l'occurrence. J'ai déjà écrit, j'ai lu quelquefois que, bien, le couple d'Aïna-Urvan, n'est-ce pas, désigner soit les âmes des défunts, hein, la Daïna emmène au paradis l'Urvan, cette âme du défunt, ou bien, dans la représentation liturgique et sacrificielle des choses, la Daïna conduit vers le monde divin l'âme, Urvan, du Saushyant, du prêtre. Donc, il y a le voyage eschatologique du défunt et le voyage liturgique du prêtre. Or, non. Ce n'est pas l'Urvan du prêtre qui voyage avec la Daïna, c'est un autre mot. Et c'est confirmé par un passage par la strophe 2 du Yasht 17. La déesse Hachi conduit, n'est-ce pas, la Daïna et le Kratu des Saushyat. C'est une autre force mentale qui est définie par le mot Kratu. Mais c'est aussi un mot masculin, c'est un principe masculin, le Kratu, hein, comme l'Urvan. Mais c'est un autre couple. l'ourvane du prêtre qui sacrifie, ne me demandez pas où il l'est. Hein. Probablement que le prêtre le conserve. Ce n'est pas son ourvane qui voyage, c'est son kratou. Donc, c'est une précision qu'il faut la peine de donner, car les textes ne nous permettent pas de dire autre chose. Hein. L'ourvane reste chevillé au corps, c'est l'âme interne. Et dans les gathas, l'ourvane, c'est le principe simplement du moi. Dire mon âme, c'est équivalent à dire je, souvent. Mon Urvan. Donc, il y a le kratou du prêtre. Kratou des Saushyant. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui est frappant dans ce texte, et ici nous sommes en mesure maintenant d'interpréter ce que vient faire ici la notion de gonflement. L'aurore est Soura. C'est le principe Soura par excellence. Bon, l'aurore a son début. Alors, quel point? Il y a un article d'Andrea Piras, qui est un élève d'Antonio Panaino, déjà ancien. Je crois qu'il avait présenté cela comme communication au congrès d'iranologie qui s'était tenu ici en 1999. N'est-ce pas? Il s'étonnait que cette aurore qui vient à peine de naître, qui est si faible, qui n'est qu'un petit point lumineux, soit qualifiée de soura. Il avait donné une interprétation qui n'est pas la mienne. Mais c'est très clair, n'est-ce pas? Elle est soura parce qu'elle est par excellence ce qui va gonfler, pas irrésistiblement. Pas un point lumineux dans le ciel qui va illuminer finalement le ciel tout entier culminer avec l'apparition du soleil. Le gonflement, c'est le gonflement auroral. Il se produit un phénomène de parallélisme en quelque sorte, n'est-ce pas? Comme la lumière du jour s'amplifie, gonfle. Eh bien, l'efficacité rituelle du sacrifiant fait de même. Il y a un parallélisme entre le phénomène naturel qui est celui de l'aurore et la dimension rituelle du prêtre, qui devient quelqu'un aussi, qui son kratou, c'est pas, lui aussi va gonfler, et il le met en mesure de conquérir, de gagner le prix de victoire. Une chose, parce que la question m'a déjà été posée, est-ce que c'est ici le rapport à l'érotisme, puisque nous sommes dans les rapports avec l'aurore, est-ce que l'on pourrait interpréter le gonflement comme dans un sens érotique, n'est-ce pas? Est-ce que cela pourrait être l'érection sexuelle? Dans l'ordre des représentations, non. Mais dans l'ordre de la métaphore, oui. Dans l'ordre de la métaphore, remarquez-le, les prêtres sont ici figurativement, comme c'est fréquent dans le Rig Veda, comparé à des taureaux. Ils sont des taureaux des jours. Là aussi, il y a un parallélisme avec le phénomène naturel, car le taureau, au singulier, le taureau du jour par excellence, c'est le soleil. C'est le soleil. Et la dimension sexuelle de la métaphore deviendra encore plus évidente, de manière plus précise, en tout cas, dans le Yasna 50-10, qui reprend la métaphore du taureau pour désigner les prêtres. Et Yasna 50-10 nomme le taureau Aïrou, c'est le sanskrit Eru, un vieux mot moribond aussi, en védique même, mais qui désigne le taureau au moment exact de la saillie. Donc la métaphore va dans cette direction. La racine chit, pour épuiser nos possibilités de parallélisme. Bien, la racine chit, le mot huchisti, qui était présent dans le Yasna 34-14, nous le trouvons dans la strophe 46-4, la strophe qui suit, où il est question de rendre ces saushyant, la métaphore du taureau se continue, de le rendre comme le taureau de tête, celui qui occupe la première place du troupeau lorsqu'il se déplace. Il en fera les taureaux de tête, nous dit le texte, du vol, patman, le vol, du vol de la huchisti, de la bonne lumière. Taureau de tête, du vol de la bonne lumière. Sous les mots contournés, on voit évidemment se dessiner la... maintenant peut-être avec ceci élucider, sans mauvais jeu de mots, la nature du gonflement à la fois aurorale et liturgique. pas, la progression de l'aurore et la progression de l'efficacité rituelle qui ici sont parallèles. Alors, une fois par une, il nous reste à commenter les autres passages, l'Agatha Spentamainu, la troisième, l'attestation vous est donnée ici. Ici aussi, il n'y a pas de chemin, mais il s'agit bien d'un déplacement dans l'espace, et même de façon extrêmement explicite d'une course, de char. Le mot Daina est attesté. Le mot Saoshiant n'y figure pas, mais il se trouve dans le contexte direct. Nous trouvons le mot Saoshiant dans la dernière strophe du Yasna 48. Yasna 49, 4 à 6, constitue la zone Daina de la Gata Spentamainu, et le premier vers de 49.9 comporte le mot sou, au datif, souillé, pour le gonflement, mais aussi dans un contexte qui ne rend pas ici la mention nécessaire. Alors, ce qui caractérise ce passage-ci, c'est que le motif de la daïna, du chemin, du gonflement, du prix de victoire, ici est intérieur à ce moment que nous retrouvons dans chaque gatha où l'on fait l'énumération des noms propres. Il est intégré à l'énumération des noms propres lorsque l'on en vient à un homme, ou bien à sa famille, nous verrons ici, il s'agit du pluriel, il s'agit donc de sa famille tout entière, qui en principe est le dernier à être énuméré dans la liste. C'est un certain Jamaspa, de Jamaspa. Que nous trouvons Jamaspa est un nom qui est toujours à peu près, qui est explicable dans le contexte indo-iranien, c'est celui dont les chevaux sont déshydratés, brûlés par le soleil. Il est, comme le nom de Zarathoustra d'ailleurs, c'est un de ces noms qui déprécie les propriétés de l'homme qui le porte. C'est, semble-t-il, un usage qui paraît-il dans l'Inde d'aujourd'hui, serait encore possible, disait Paul Tim. Il s'agit évidemment d'une manœuvre superstitieuse. Hein, en attribuant des richesses médiocres à quelqu'un, on n'attire pas sur lui la jalousie du sort. C'est une explication possible. Quoiqu'ici, il faut faire attention. Dans l'ordre des stylisations, dans les gathas, ce n'est pas très clair. Mais le nom de Jamaspa désigne effectivement quelque chose de défavorable. Les chevaux sont doublés d'une tare particulière, c'est évident. Mais pourquoi, c'est une autre question que nous n'allons pas envisager tout de suite. Alors, cette énumération des noms propres fait intervenir, nous allons voir aussi pour la dernière gatha, fait intervenir deux notions que nous ne comprenons pas bien pour deux raisons. D'abord parce que leur étymologie n'est pas évidente. Indo-iranienne. Nous n'avons pas d'équivalent indien véritablement formel. L'autre raison, c'est que ces mots sont moribonds. On en retrouve, pour l'un en tout cas, celui que nous avons ici, le mot Yah, nous le retrouvons dans l'Avesta récent, mais comme cela arrive souvent, c'est une pure réminiscence du vieil avestique. Ce sont des mots qui vont disparaître de l'usage. Il est clair que le traducteur Pelvi, le traducteur de l'époque sassanide, ne les comprenait plus parce qu'il n'a pas traduit, il les a calqués. C'est ce que le traducteur Pelvi, chez lui, c'est son aveu d'ignorance. Hein, lorsqu'il ne sait pas, il donne une forme vaguement Pelvi, vaguement moyen perse au mot vieil avestique lui-même. Ces deux termes sont « ya » dans les textes vieil avestiques, commodément, Pirard et moi, c'était commode, mais je ne suis pas sûr que ce soit juste. Nous avons pensé que c'était le terme qui désignait l'énumération des noms propres elles-mêmes comme genre rhétorique, comme moment récitatif. Le « ya », c'est l'interpellation des hommes hein, par leur nom. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, j'en suis plus sûr du tout. Et l'autre mot, c'est « maga ». C'est « maga ». Sont-ce des mots rituels, oui, d'une certaine manière, mais on ne peut pas les ranger avec Yasna, avec Varma, etc., comme nous avons vu au début de cette série de cours, ce sont deux mots qui sont indissolublement liés à l'énumération des noms propres. Pour savoir d'ailleurs qui sont les hommes dont le nom est ainsi mentionné, il serait presque, je pense qu'il serait nécessaire de savoir ce que signifient ces mots. Pour l'instant, je ne le sais pas. Je ne sais pas comment résoudre cette question. Nous verrons. Mais en tout cas, nous l'avons ici au locatif. Le mot Jamaspa, le nom de l'homme, est ici au pluriel, ce qui signifie que ça désigne son cercle familial. Lorsque les Jamaspa, au moment du Ya, je n'ai pas traduit, attellent leur Daïna, ils ont leur Daïna, ils l'attellent à l'équipage de l'agencement. Il y a donc bien, on attelle, on met les chevaux au char, pour gagner la course au Mishta. Donc au prix de victoire. Donc là, ici, là, le voyage liturgique est assimilé à une course de char que l'on va gagner et qui va nous valoir le Mishda. La quatrième gatha, la Vurukshatra, le Yasna 51, je ne l'ai pas donné. Nous n'apprendrons rien de plus avec le Yasna 51, 15 et 17. On trouve dans la même configuration, sur trois strophes, la mention du Mishda, le prix de victoire, la notion de gonflement, pas de Saushient, hein, gonflement, avec le terme Sava. Le chemin, ici, oui, le nom du chemin est mentionné, il s'agit bien de faire un chemin, Pat. Et la Daïna, elle aussi. Cette configuration à quatre éléments est ici aussi intégré à l'énumération des noms propres. Et alors que dans le Yasna, la Gatha Spentamainyu, il n'était pas fait mention de la lumière, on trouve à la strophe 15 et à la strophe 18 du Yasna 51 deux attestations du mot chisti. Chisti. Donc un dérivé de chit. Alors, je voudrais faire ici une remarque. Le mot Sava est attesté. Le mot Saushyant n'est pas attesté dans le Yasna 51. Ceux d'entre vous qui assistent au séminaire savent que j'ai fait l'hypothèse, au début c'était une hypothèse un peu prématurée d'une certaine façon, mais tout de même c'est une piste à laquelle il faut penser, que le Yasna 51, par un certain nombre de ses aspects, est plus proche du Yasna Haptankhaiti que les autres gathas. Or là, c'est une remarque que je voudrais vous faire parce qu'elle me semble intéressante, c'est que Saushyant, le gonflement, le gonflement qu'il soit eschatologique, naturel ou liturgique, n'est pas là, absent. Cette famille de mots, ces dérivés de la racine sou, sont absents du Yasna Haptankhaiti. Le Yasna Haptankhaiti ne les mentionne jamais. Et même, nous avons bien sûr une mention de sous, mais à la védique. Les Zameshaspenta, puisqu'ils sont mentionnés dans le Yasna Haptankhaiti, sont, comme on pourrait le dire d'un dieu védique, Zavano sous. Ils gonflent, ils deviennent forts par la libation. Et malheureusement, il y a deux mots, Zavana. L'un signifie la libation, l'autre signifie l'invocation, de toute façon un élément rituel, mais cet élément rituel donne de la force au Dieu. Ce n'est pas du tout la même représentation complexe. Nous sommes ici carrément dans la catachrèse à la védique. C'est une caractéristique, je crois, essentielle du Yasna Haptankhaiti. Par contre, je vous inviterai, j'ai tout de même mentionné le Yasna 41, c'est à la suite du Yasna 34-14, il nous apprend tout de même quelque chose d'intéressant. Ici, nous trouvons mention du Mishda et de la Daïna. Mishda Mavaitim Fradadata Daïna Bio Mazda Ahura. Le Mishda, le prix de victoire digne de moi, Mavaitia, que tu as institué, Fradadata, pour les Daïna, pour les Daïna ou Ahura Mazda. Donc ici, nous voyons la combinaison de deux éléments de notre présentation, n'est-ce pas ? Alors, je voudrais Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous va réagir. Il y a quand même quelque chose de frappant dans cette strophe. Si vous vous souvenez des caractéristiques du Yasna-Raptin-Kaiti, de ce qu'il différencie des gathas. C'est la seule fois de tout le Yasna-Raptin-Kaiti que nous avons un terme qui se rapporte à la première personne du singulier. La seule fois. Le Yasna-Raptin-Kaiti est toujours rédigé à la première personne du pluriel. Toujours. Pas contrairement au gatha qui est aussi entre les deux nombres. Eh bien voilà, c'est au moment où l'on évoque le Mijda, au moment où l'on évoque les Dainara, des sacrifiants bien entendu, qu'un élément de première personne surgit, un élément de première personne du singulier. Ce sont des éléments que l'on ne peut jamais attribuer au hasard dans la rhétorique subtile de l'indo-iranien ancien. Si, certainement, c'est le prêtre en exercice qui s'attribue à titre individuel la victoire sacrificielle que nous trouvons ici. Bon, alors, la dernière gatha, elle est extrêmement complexe. Elle représente, ces 9 strophes, ne représentent qu'une vaste énumération des noms propres avec, avec des considérations très particulières. Le groupe humain qui est mentionné ici n'est pas usuel. Ce sont des membres de des énumérations que nous trouvons ailleurs, oui, mais dans une configuration curieuse. D'abord, Zarathoustra n'en fait partie que de manière indirecte, n'est-ce pas ? On le mentionne en tant que père de l'un des protagonistes. On le mentionne aussi comme quelqu'un qui pourrait ne pas être présent. Ce qui a incité d'ailleurs un certain nombre de commentateurs, depuis Bartholomée jusqu'à Houbar lui-même, à considérer que cette gatha n'est pas de Zarathoustra, si tant est que les autres le soient bien sûr, n'est-ce pas, mais d'un successeur qui parle de Zarathoustra comme de quelqu'un qui serait mort. Cette idée vient de la première strophe. La première strophe de cet hymne nous dit que Zarathoustra, Ahura Mazda, Dat, Ayapta. Ayapta, c'est le bienfait, c'est un avantage, les bienfaits. Il dit que Ahura Mazda lui a donné les bienfaits des deux états d'existence. Et on comprend cette expression, puisque c'est un fait qui appartient au passé, puisqu'on lui a donné les bienfaits, c'est qu'il est mort et qu'il a reçu sa récompense, à savoir le paradis. Hein ? Eh bien, c'est ici qu'il faut faire intervenir la règle de Kuiper, n'est-ce pas ? Ce mot date n'est pas monosyllabique. Il ne s'agit donc pas de la forme d'injonctif qui serait loisible de traduire par un passé, mais le maître l'indique clairement, le mot est disyllabique. Donc, il fallait, à l'époque de la composition du texte, prendre 2 syllabes, c'est un subjonctif, donc un futur. Il n'est pas question d'un acte passé, mais on lui donnera les bienfaits. Il n'y a aucune raison de considérer, par conséquent, que Zarathoustra appartient au passé. Il est dans cette gatha, pas plus que dans les autres. Alors, la tradition, qui d'ailleurs se fonde pour cela, la tradition moyen-perse, ça a été repris d'une manière générale par la tradition savante, considère que ce texte a été rédigé pour une cérémonie de mariage. C'est ce que dit le commentateur moyen-perse. La mariée serait la fille de Zarathoustra, Puruchistar. Et l'époux, étrangement, curieusement, celui qui n'est pas nommé, c'est-à-dire le Jamaspa, dont la famille apparaît au Yasna 49.9. Alors, le groupe humain, bien, vous l'avez dans la strophe 2, nous allons la lire. J'ai reproduit ici quelque chose dont j'ai douté à un moment donné, mais je vais donner une explication. Une hypothèse qui nous a valu quasi des injures à Pirard et à moi, parce que nous faisions de Vishtaspa le fils de Zarathoustra. Je ne sais pas si c'est vrai, et puis je ne sais pas si ça ne tient pas non plus à la situation. Mais nous avons appliqué aveuglément nos principes, à savoir appliquer la structure des particules de coordination telles que Jared Klein les avait analysées pour le Védic. Nous avons une énumération à trois termes. Il y a un homme qui s'appelle Vishnaspa et qui est doué de la capacité du titre de Kavi, hein, Kava Cha, porte le Cha. Ensuite, nous avons en tout cas, portant aussi Cha, un homme qui s'appelle Phrashaushtra et qui est en principe le frère de Jamaspa. Alors, vous voyez comme les noms sont stylisés. Ce monsieur Phrashaushtra, lui, porte un nom extrêmement valorisé. C'est celui dont les chameaux sont ses vœux, comme nous avons traduit, n'est-ce pas ? Ces chameaux sont en bonne santé, ce qui les oppose aux chameaux vieillissants de Zarathoustra et aux chevaux desséchés de son frère Jamaspa. Nous avons deux particules de coordination. Est-il possible que nous ayons ici trois personnes ? L'une, centrale, entre les virgules, étant désignée non pas par son nom, mais par son appartenance familiale et clanique. Zarathoustri, fils de Zarathoustra, Spitama, du clan Spitama. Curieuse pratique de ne pas citer un nom. Nous aurions donc, selon la tradition savante, trois personnes ici énumérées. Trois personnes énumérées, donc une personne A, une personne B et une personne C. Alors pourquoi avons-nous considéré que Zarathoustri et Spitamo se rapportaient à Vishnaspa ? Eh bien, en principe, parce que la configuration des particules de coordination, lorsqu'il y a trois termes, n'est jamais celle-là. Jamais. Ça n'existe pas, comme Klein l'a démontré pour le Védique. Vous pouvez remuer aussi toute la littérature avestique, vous ne trouverez jamais une répartition comme cela des particules de coordination. Ou bien le premier terme la porte est lui seul, ou bien le dernier terme est lui seul, ou bien les deux derniers et eux seuls, ou bien les deux premiers et eux seuls, ou bien tous. Ça, ce sont les possibilités, mais celle-là, non. Alors, il faut nous excuser, nous avons appliqué à la lettre, aveuglément, la règle syntaxique. Pas dans la mesure où nous voulions faire un travail qui était essentiellement expérimental. Nous ne voulions pas faire des hypothèses qui devaient tenter de rétablir une réalité présumée par une entorse à la grammaire. Hein ? Nous avons donc donné ceci. Je ferai remarquer d'ailleurs que ce monsieur Vishnaspa, le nom de son père est extrêmement fluctuant dans la tradition Masdéi. Il s'appelle Lauraspe, selon les textes moyens perses et le Chaname. Il s'appelle Orvataspa, ce qui est très intéressant, c'est aussi une épithète solaire dans l'Avesta récent. Il n'y a pas de raison que son père ne porte pas aussi un autre nom en vieille avestique. C'est le cas de Zarathoustra lui-même. Hein. Son père s'appelle Purushaspa dans l'Avesta récent. Or ici, c'est très clairement, le nom est cité ici, Haichataspa. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Purushaspa et Haichataspa sont synonymes. Ça désigne une couleur de la robe des chevaux. Je ne suis pas spécialiste en hippologie et je ne sais pas ce que veut dire exactement ce que représente un cheval qui a des taches. Hein, car c'est cela que ça veut dire. Pommelé peut-être pas. Bon. Nous pouvons voir ce qui se passe. Il s'agit donc de Vishnaspa, de Phrashaushtra, et il se trouve sur un chemin. Les droits aurales donnent les droits chemins du don liturgique, les chemins directs du don, à la Daina, qui est celle du Saushant. Voici donc notre thème du chemin, et nous trouvons le mot Daina et le Saushant. La strophe suivante, apparition d'une femme qui est définie, le clan des Spitama, donc les descendants de Haichataspa, celui dont les chevaux sont tachés, et qui est la plus jeune fille de Zarathoustra. On lui demande par un impératif, Temchatu, de se tenir immobile. Elle s'appelle Puruchista. Oui. C'est la racine Chit. Hein? La racine Chit. C'est donc le nom, nous sommes dans le contexte oral. Donc là, si, il faut prendre, si nous prenons les choses, parce que si nous prenons les choses avec Chista, seul est un des autres noms de la Daïna, non, la manière la plus simple, la plus simple simplement de comprendre le nom de Puru Chista, ça veut dire qui illumine ou qui est remarqué, Chista, adjectif passé, passif, par beaucoup. Ça peut vouloir dire, si on interprète un peu, la séduisante, hein, on la remarque quand elle passe. Ça peut vouloir dire ça. Mais dans ce contexte-ci, faisons attention aussi au catachrèse, nous sommes dans le contexte oral. Hein, la lumière, la Daïna est là, et Puruchista, curieusement, porte un nom qui nous fait appel à la capacité de vision. Et puis le texte se développe. La strophe 5 montre que nous sommes effectivement en contexte matrimonial. Il est question de mener le chariot de noces. Porte un nom particulier que Humbard a très bien restitué, Varia, hein, c'est-à-dire le char sur le chariot sur lequel on conduit l'épousée. On trouve la racine vad, c'est l'autre racine conduire, celle qui se réfère à la au déménagement de l'épouse depuis sa famille jusqu'à celle de son mari. Et puis la strophe 53.7, que j'ai retraduit, c'est celui-ci, pour vous, il y aura Mijda, voilà la notion de Mijda qui intervient, il y aura Mijda de ce bienfait, le mot maga est là, tant que le pénis sera très confiant en allant et venant au profond des deux cuisses, là où la fougue du trompeur a peine perdu. Et puis, un jeu de mots volontaires. Magum teum visayata signifie, si nous référons à un sens de maga, comme piquer le trou. Ou bien, si nous prenons un autre sens de maga, inciter le bienfait. Que le jeu de mots soit volontaire, c'est évident. Hein, car il y a deux mots maga. Le premier maga, c'est quelque chose de très concret. C'est un nom masculin. Et c'est un trou. On peut désigner le sexe féminin par cela, de façon le Holmstrom le montre. Et il y a un second terme, maga, qui est neutre. C'est le mot rituel qui est associé à l'énumération des noms propres. Or, magum teum, on emploie le mot maga dans ce contexte avec le pronom démonstratif masculin. Il y a donc volonté de créer une interférence. Une interférence entre le mot maga de l'énumération des noms et le nom maga concret et à connotation sexuelle, comme ce qui précède. Alors, la traduction que vous avez ici, elle n'a été possible. Vous référez aux autres traductions qui ont précédé, celle de Pirard et de moi. Ici encore, Pirard et moi, nous voyons bien de quoi il était question, mais nous avons été fidèles à nos principes qui consistaient à ne pas traduire les mots que nous ne connaissions pas. Dès lors, le mot qui est traduit ici par pénis ne figure pas dans le texte. Ce n'est pas une autocensure, hein, si nous avons mis trois petits points. C'est parce que notre principe était, si le mot n'est pas identifié, il ne faut pas le donner, il ne faut pas le traduire. Bon, alors le mot en question qui est Ajouche, très peu de temps après, le livre n'était pas encore sorti, qu'on a pu l'identifier grâce à des graffitis sogdiens, des graffitis phalliques sogdiens, où l'on trouvait en commentaire Ajouk. C'est Ajouk en sogdien, s'explique par Ajouka, ce qui nous permet d'identifier le mot « ajout » et le caractère phallique des graffitis montre très clairement que c'est bien de cela qu'il s'agit. Bon. Alors, la question, vous le voyez bien, que faire avec une strophe de ce type, hein? Que faire? Or, je vous certifie que tous les mots sont exacts. Pour une fois, nous comprenons tous les mots. Alors, je voudrais bien faire à cet égard-là deux remarques dont deux sont anecdotiques. C'est tout de même que nous avons, semble-t-il, affaire à une situation extrêmement concrète. Remarquez combien le caractère détourné de l'expression nous empêche de bien savoir, de bien comprendre immédiatement de quoi il est question. C'est toujours comme cela, et c'est de cela pour toutes les situations dans les gathas, n'est-ce pas ? Quel est le rapport entre la situation sexuelle et le magga ? Même via le jeu de mots, nous ne pouvons pas saisir exactement. Dans quelle situation précise la récitation de cette strophe peut-elle se produire, hein? Bon, d'abord, c'est le caractère contourné de la langue est toujours un obstacle. Dans un texte qui, au fond, représente un beau cas de figure, parce que tous les mots sont clairement identifiables et la syntaxe aussi. Alors, il y a un autre problème. On ne peut pas nier que le texte signifie bien cela. C'est indéniable. Tout le monde a accepté cette interprétation. Mais voyez combien une interprétation de cette strophe est gênante dans le cadre de l'interprétation bartholoméenne des choses. Hein? J'ai entendu très peu de temps après, lors d'un colloque à Rome, des tentatives d'explication contournées, parce qu'il s'agirait d'un appel à la fidélité conjugale, etc. Bon, mettons ça de côté, si vous voulez bien. Donc, nous avons ici autre chose. Nous avons autre chose. Nous avons l'intervention d'une femme. Nous avons un rituel qui est bel et bien un rituel de mariage. Cette femme porte dans son nom une manifestation de l'aurore. Hein? Alors, l'érotisme de l'aurore védique est bien sûr en question. Il s'agit d'un rite. Il s'agit d'un rite. Mais on comprend bien qu'il s'agit d'un rite qui comporte un mime. Une autre strophe, je ne vous l'ai pas donnée, mais c'est la strophe, ce n'est pas la dernière du Yasna 53. On voit bien que pour épouser la jeune fille, pour en prendre la possession sexuelle, strophe 8, il faut se débarrasser d'un certain nombre de personnes. Et c'est une très belle gradation dans la violence, n'est-ce pas ? Il y a ici des gens qui sont dushvashna. Bon, c'est un mot qui se rapporte à leur impuissance sexuelle. Mais il faut les berner, tafnia, il faut se moquer d'eux. Les leurrer, hein, c'est le mot, ils doivent être leurrés. Sahyacha, l'imax monte, hein, il faut se moquer d'eux. Et puis, krausantam, c'est-à-dire courir autour d'eux en les huant, comme on chasse, hein, comme l'on chasse. C'est un terme qui est utilisé pour la chasse, c'est un rabattage au bruit. Et puis, il faut les frapper. Et enfin, leur couper la gorge. Donc, il y a des adversaires, dont, d'une certaine manière, vers lesquels, puis la demande finale, c'est qu'ils soient emmenés tout de suite par le lien de la mort. Hein? Il semble y avoir combat pour la possession d'une femme, n'est-ce pas ? Or, Alberto Cantera, dans sa conférence lors du colloque sur Yama, a émis l'hypothèse que je crois exacte, elle est en filigrane dans notre texte, n'est-ce pas ? C'est que ce qui est en jeu ici, c'est le mariage de l'aurore. Mariage de l'aurore. Qui sont les autres protagonistes ? La partie liturgique, ce sont bien entendu les prêtres, c'est-à-dire ceux dont le nom est mentionné. Trois noms sont mentionnés, Vishtaspa, hein, Zarathustra et Phrashaustra. Zarathustra est le père, mais n'oublions pas que la représentation peut être incestueuse. Dans le contexte iranien en général, le mariage incestueux que nous connaissons bien, mais aussi du point de vue védique. Mais cela, ça tient à la mythologie de l'aurore. Hein. Il y a épousailles incestueuses entre l'aurore et son père. Son père qui est... Il y a deux possibilités. Les deux possibilités sont mentionnées. Soit le ciel, soit le soleil. Je crois qu'Alberto Cantera avait choisi l'hypothèse soleil. Mariage de l'aurore avec son père, le soleil. Donc le caractère auroral du rite est remarquablement souligné. Mais je voudrais quand même, dans ce contexte, il nous faut poser la question des acteurs, n'est-ce pas, des acteurs possibles de, ce mime. Le phénomène auroral met en jeu l'aurore elle-même, appelée Daina, sous sa forme dématérialisée, sous sa forme de capacité de vision, dans notre texte. Le soleil est deux fois nommé. Le soleil est deux fois nommé dans les gathas. Pas plus. Hein. Excusez-moi, trois fois. Trois fois, parce qu'il y a toujours cette cosmogonie qui est systématique et où on considère que les choses vont de soi. Mais en dehors de la cosmogonie du Yasna 44, il est nommé deux fois. Et puis alors, la grande question, hein, le ciel. Mais là, c'est une grande question. Et nous ne le résolverons pas aujourd'hui. Hein. Il faudra que nous en parlions beaucoup plus longuement. Je ne sais pas comment on dit le ciel en avestique. Nul ne le sait. Le nom du ciel n'est jamais mentionné. Jamais. Asman, ce n'est pas ça. C'est la voûte céleste. C'est la pierre qui ferme le ciel. Il y a un ciel derrière, il y a un ciel en dessous. Il y a un ciel humain sous la voûte et un ciel divin au-dessus de la voûte. Mais quelque chose qui ressemble à Diao, hein, dans les mots si fréquents, le jour et le ciel diurne, par ailleurs, nous n'avons pas. C'est un mot qui n'existe pas. Une explication que je vous ai déjà certainement reproduite, mais je me demande s'il n'y a pas autre chose, c'est que la compatibilité, c'est que l'étymologie qui fait des daiva, les dieux du ciel lumineux, n'est-ce pas, deva, deus en latin, était encore sensible. Et que le fait que le nom du ciel soit apparenté au nom des devas devenus des démons avait fait en sorte que le nom du ciel avait été rejeté et qu'on avait supplié, hein, par un autre terme, soit par les lumières, rauchor, car les lumières, ça veut dire le ciel d'une certaine... Les nuées aussi, signifie, c'est le renvoi à quelque chose qui n'est pas la terre, ou bien Asman, la voûte céleste. Mais le fait est là, il n'y a pas de nom du ciel. Alors, vous voyez où je veux en venir, je ne vais pas être cachotier, je ne vais pas en faire la démonstration aujourd'hui, mais le ciel, c'est Mazda, bien sûr, c'est Mazda. Mais Mazda est le ciel, comme la Daina est l'aurore, hein, c'est-à-dire sous forme dématérialisée. C'est le nom de sa forme Mainyava, de la forme mentale du ciel, comme la Daina est la forme mentale de l'aurore. Alors, Mazda est peut-être ici, ou le soleil qui n'est pas nommé dans la strophe, il s'agit peut-être de l'époux. Hein, il s'agit peut-être de l'époux. Alors, si vous le voulez bien, nous allons poser la question de cette... Pour être complet, pour en terminer avec l'eschatologie aujourd'hui, qu'attend-on du sacrifice? En quoi consiste le Mijda? Eh bien, continuez dans votre exemplier, si je vous en prie. Nous verrons que chaque gatha qui comporte plusieurs haïti se termine par une demande. C'est une demande parce qu'il s'agit de forme impérative. Les verbes sont à l'impératif. Qui combine les mêmes éléments. Mais la seule qui est compréhensible, c'est celle du Yasna 34-15. Où l'on demande à Ahura Mazda, par son pouvoir et par son vasna, de rendre l'état d'existence, Ahum, parfait, fracha, et haïtia, j'ai traduit par éternel. J'aimerais mieux, j'ai changé d'avis hier, je me suis demandé si permanent ne vaudrait pas mieux, parce que éternel peut faire bon. Mais en tout cas, c'est durable, hein. Or, c'est dans le cadre de l'existence matérielle que cette demande est faite. Il s'agit de rendre notre état parfait et durable, c'est-à-dire sous nos deux formes. Alors que le monde matériel a fait son apparition dans le Yasna 34 et 35, on formule cette demande-ci pour lui. Ben, il faut que ces choses soient parfaites. Il ne faut pas que nous soyons malades ou mortels, n'est-ce pas? Il faut que notre état d'existence soit parfait et qu'il dure. Et pour l'éternité de préférence. Le problème, c'est que la formule du Yasna 46-19 et celle du Yasna 50-11 qui termine les deux autres gathas polyhatiques soit extrêmement alambiquée. La traduction que vous avez là, elle est indicative. C'est la traduction des textes vieillavestiques d'il y a 20 ans que Pirard et moi en avons donné, mais il y a de gros problèmes, parce que le mot « à vous » fait défaut, sauf dans un lien de dépendance syntaxique qui ne permet pas d'en faire l'objet de la demande, dans l'IASNA 50.11. Alors, vous voyez qu'il y a une ellipse, nous avons entre parenthèses restauré le mot « acte », ce qui est plausible, car la restauration se base sur l'existence d'un objet interne. C'est une démarche, une hypothèse tout à fait recevable. Cultuel, c'est ce que je traduis maintenant par permanent. Alors, le mot plantureux n'est pas très heureux pour dire frachat, c'est ce que je traduirais par parfait. Mais on ne sait pas effectivement très bien. On voit bien qu'il y a des éléments parallèles, mais il est très difficile de faire correspondre. Alors, pour notre but aujourd'hui, je vous en prie, ne tenez compte que du Yasna 34.15, où nous ne sommes pas tenus par trop d'incertitudes grammaticales. Pas le Mishda, c'est ça. Pas rendre l'état d'existence parfait, d'une part, fracha, et d'autre part, permanent, haïtien. Alors, est-ce que cela s'inscrit dans une visée qui serait celle de l'Avesta récent, l'histoire cosmique, un dernier sacrifice qui réussit enfin de manière non plus symbolique, mais de manière effective, et qui débouche sur la résurrection des corps? Pouvons pas le dire, hein? N'oublions pas que le tout dernier sacrifiant, le dernier Saushiad, fils posthume de Zarathoustra, s'appelle Astvat Eureta. Eureta, c'est une forme curieusement non déformée qui représente Eurta. On y reconnaît encore le Eurta védique. Celui dont le Eurta, celui dont l'achat, celui dont l'agencement est Astvant, est au-dessus. Or, ce mot est tiré des Gathas. Ce personnage et son nom proviennent d'une strophe gathique. Je vous la donne. C'est la dernière strophe du Yasna 43. Le Yasna 43, premier chapitre de la deuxième Gatha, est marqué par un refrain. Quelqu'un qui parle à la première personne dit « Je pense, Munki, Oahua Mazda, que tu es spenta, que tu es bénéfique, que tu es bienfaisant, que tu es faste. » La personne qui parle est très clairement ici à la première personne, Zarathoustra. Bon, il donne un avis sur Oahua Mazda. Il dit « Je pense que tu es spenta. » Et puis vient la conclusion, la toute dernière strophe, où le nom de Zarathoustra passe cette fois à la troisième personne, et on nous dit que Zarathoustra a choisi Vernte ou Oahua Mazda. Ce Manu, voilà le mot Manu. Manu, c'est la racine man, pensez. Or, c'est intéressant ici parce qu'on voit bien que ça correspond au je pense que du refrain, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai traduit par avis. Traduit Manu par avis. Il a choisi l'avis que tu es Spenishta, que tu es très bienfaisant. Et alors, on passe une série de souhaits après cette conclusion. Puisse l'agencement osseux, voilà notre nom d'Asvatorta, mais les deux termes sont séparés, puisse l'agencement osseux être puissant par son ushtana, donc par son âme ushtana, par l'âme qui provoque la mobilité et qui est mortelle, qui appartient donc au corps matériel. Puisse Armaïti, la juste pensée, une autre divinité, se trouver dans un lieu où s'exerce un pouvoir, c'est un locatif, dans un lieu où s'exerce le pouvoir, Koendersoi, voilà une de nos deux attestations du nom du soleil, un lieu où l'on voit le soleil, un lieu où l'on voit le soleil. Puisse-t-elle, cette terre, cette Aramaïti, c'est la terre aussi parfois, nous sommes bien dans le contexte du monde matériel cette fois, puisse-t-elle, par la bonne pensée et par les actes, Shautanaïch, lui donner le mouvement, lui donner un mouvement, Hashim, pour traduire aussi en interprétant le mot de la manière la plus faible pour le mot Hashim. Voilà de quoi il est question. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on voit que c'est ici, cette notion d'agencement osseux ne s'inscrit pas du tout dans un contexte d'histoire cosmique. L'histoire cosmique, l'eschatologie collective, nous ne la trouvons pas dans les gathas, que ce soit un rite permette d'arriver à un résultat escompté, dans quelles conditions, c'est trop rapide, nous ne le savons pas. Nous pouvons seulement en prendre une faible connaissance par les deux derniers vers de trois gathas. Hein, rendre l'état parfait et permanent. Selon quelle procédure? Au bout d'une histoire ou non? Un jour peut-être, je ne sais pas. C'est certainement je ne veux pas ici dire de manière extrêmement péremptoire il n'y a pas d'eschatologie collective dans les gathas. Je ne peux pas vous dire ça. Je dirais qu'elle est inaccessible à nos connaissances. Parce que tout se passe dans le domaine du monde immatériel et la gatha s'achève, comme nous allons le voir, par l'intrusion dans le texte du monde matériel, avec l'offrande de Hauma et le sacrifice, comme nous l'avons vu, s'achève par le gain du Mishda, et le poète dispose encore d'une strophe, hein, d'une strophe pour nous dire en quoi consiste le Mishda et faire son ultime demande. L'ultime demande, nous l'avons traduit, c'est celle du Yasna 34.15. Les deux autres strophes, je ne sais pas. Alors voilà, je vais vous laisser sur cette conclusion. Nous en avons terminé avec l'eschatologie. Je n'aurai pas eu le temps d'analyser avec vous les personnages qui sont mentionnés, ce sera pour l'an prochain. Alors, je crois qu'il vaut mieux ne pas s'en occuper cette année, nous ferions trop vite, mais qu'il serait peut-être bon maintenant, comme nous avons tout de même quelques résultats, que nous consacrions la semaine prochaine, au cours de la semaine prochaine, à faire une sorte de récapitulation générale en commentant de manière cursive les deux derniers chapitres 33-34 de la dernière gatha qui ont été un peu en quelque sorte dans cette enquête notre texte fétiche, et nous allons comme ça essayer de ramener tous les fils, c'est pas, que nous avons tenté de dégager. Voilà, je vous remercie.